France Musique.
Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Vous aimez Mozart ?
C'est lequel ?
Le dernier.
Ça veut dire que j'ai pas de pot avec la musique.
T'en fais aussi ?
Moi, plutôt crevé.
Vous croyez pas que c'est un peu réservé à certaines élites ?
France Musique.
La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
Saskia Deville.
La musique n'est-elle pas le meilleur moyen de voyager entre le passé et le présent, de traverser le temps et l'espace, qu'elle fasse remonter un souvenir de jeunesse ou un épisode de l'histoire de la musique? Elle peut aussi jouer avec notre mémoire, en fusionnant les styles musicaux, réalisant ainsi une synthèse du passé et de la modernité. Les effets miroirs sont multiples et incessants dans la musique, et cela illustre à merveille la programmation de notre invitée. Bonjour Éric Garando.
Bonjour.
Et bienvenue dans cette émission Romancier et directeur des affaires publiques chez TikTok France. Quel plaisir de vous accueillir ici dans cette émission avec Las Cuatro Estaciones Porteñas d'Astor Piazzolla, ici un extrait Verano Porteño par l'ensemble Les Dissonances. David Grimal, vous m'avez écrit en préparant cette émission. Les 4 saisons ne sont pas toutes de Vivaldi, il faut le répéter, il faut le rappeler.
Voilà, effectivement, ce n'est pas qu'une pizza et ce n'est pas que du Vivaldi, oui. Et je trouve que j'adore ces saisons aussi de Piazzolla. J'adore le tango. J'adore le cinéma aussi. Quand on écoute Piazzolla, on voit tout de suite aussi des images de films ou de cette incroyable ville de Buenos Aires.
Donc, et puis, il y a ce reflet du passé, écoutez. Citation de l'œuvre des 4 saisons de Vivaldi par Astor Piazzolla, au sein même de son œuvre. Quand je demande à nos invités pour cette émission de préparer une programmation musicale, on m'envoie généralement des titres avec parfois des interprétations précises. Vous m'avez donné une émission clé sur porte à peu de choses près, Rigando. On sent vraiment votre immense passion pour ce répertoire.
Oui, c'est vrai, et les correspondances entre des musiques, entre elles d'ailleurs, et puis avec la littérature, ou des expériences vécues aussi, c'est tout à fait passionnant de se plonger dans cet exercice, d'essayer de trouver des correspondances, d'essayer de monter une programmation. Et puis c'est vrai que de commencer par Piazzolla, par cet enregistrement des dissonances, c'est émouvant aussi pour moi parce que ça faisait partie des premiers enregistrements des dissonances quand on a commencé cette aventure musicale avec David Grimal il y a plus de 15 ans maintenant.
Parce que vous êtes président du conseil d'administration de cet orchestre. Je le disais en introduction, Éric Garando, les effets miroirs sont multiples dans l'histoire de la musique. Vous amusez-vous à les débusquer quand vous écoutez une œuvre du répertoire ?
En fait, les miroirs, c'est surtout un jeu par rapport au livre que j'ai écrit qui s'appelle Galerie des glaces. Avant, j'avais écrit un autre livre qui s'appelait Tapis rouge et qui jouait sur le vrai, le faux et le fake, l'original, la copie. Et là, pour ce nouveau livre, ça parlait d'une aventure qui est liée à des miroitiers vénitiens au XVIIe siècle, je me suis amusé à ce que le miroir apparaisse dans tous les fragments, j'allais dire, du livre. Et puis, par rapport à la musique aussi, effectivement, la musique permet des mises en abîme, des mises en miroir. C'est même des figures stylistiques, contrapuntiques, dans l'écriture de Jean-Sébastien Bach, par exemple. Il y a des miroirs dans les thèmes. Donc c'est vrai qu'on peut jouer infiniment. C'est le propre du miroir, on peut jouer infiniment avec ses reflets.
Alors il y a le faux, la copie, le fait, comme vous dites, il y a aussi l'inspiration dans le passé.
Oui, tout à fait. Le paradoxe, c'est quand je me suis lancé dans ce livre, qui est un livre en partie historique et en partie contemporain, j'appréhendais beaucoup sur la partie historique, parce que je suis pas historien, et en même temps, je suis fasciné par l'histoire, Et je suis fasciné aussi, comme je travaille dans le numérique et que je vis, comme tout le monde vit dans un environnement numérique digital, d'immédiateté absolue, qui est sidérant, qui est vertigineux, qui est très positif, puisqu'on peut se projeter immédiatement dans toutes les cultures du monde. Donc ça, c'est merveilleux. Et en même temps, c'est vrai que quand on est espèce de nuage numérique, d'ailleurs on appelle ça le cloud, donc on est tous dans le nuage, et on peut se dire, mais est-ce qu'on n'a pas perdu aussi, est-ce qu'on a encore les pieds sur terre? Et donc j'ai voulu travailler sur le temps long, en fait, le temps historique. Et c'est pour ça que, notamment quand j'écrivais ou quand je préparais le livre, j'écoutais beaucoup les grands fondateurs de la musique, on va dire musique occidentale, Bach, Jean-Sébastien Bach et Monteverdi. Je me disais, c'est intéressant parce qu'ils étaient eux-mêmes à des périodes charnières, en fait. Donc ils étaient eux-mêmes issus d'un passé de médiéval et de la Renaissance. Et ensuite, ils basculaient aussi dans la modernité. Ils ont créé, voire anticipé la modernité, comme Monteverdi qui a évidemment inventé l'opéra.
Ensemble, Elima, dirigé par Gabriel Garrido, ici le tout début de ce magnificat extra des Vêpres de la Sainte Vierge de Claudio Monteverdi que vous avez choisi pour nous, Eric Garando, œuvre de 1610. Vous vous rappelez, tiens, de la première fois que vous l'avez entendu?
Alors, je pense que c'était. Alors, j'ai entendu surtout le. Je pense que c'était l'Orfeo de Monteverdi par Gabriel Garrido. Je pense que
on considère en oui. Très résumé. Hein, c'est plus subtil que ça, mais comme le premier opéra de l'histoire de la musique.
Voilà, tout à fait. Et je pense que j'ai écouté au Festival de Beaune. Et donc, je salue Anne et Kader au passage parce que c'est vrai que c'est un festival incroyable. À l'époque, je travaillais pour Jean-Jacques Ayagon, qui était un grand passionné de musique baroque. Et donc, j'ai vraiment découvert vraiment tout l'univers de la musique baroque et tous les ensembles. C'était il y a maintenant presque 20 ans, j'allais dire. Et ça, le temps passe. Et donc, c'est vrai que ça a été un choc. Comme la musique de Gershwin, quand j'étais très jeune, la musique baroque, et notamment la musique de Monteverdi, a été un choc. J'avais aussi exploré Monteverdi, Frescobaldi, pendant mon année d'hippocagne, au lycée Fénelon, près de Sabine Bérard. Et on était allé en Italie, enfin, on était sur les orgues de Dole, enfin, on avait vraiment étudié tout ce répertoire. Ça se retrouve aussi c'est la manière de jouer qui est intéressante, la liberté, incroyable. Et puis, dans ce Magnificat, c'est vrai que, il y a une énigme qui est que Monteverdi a superposé donc plutôt un chant polyphonique de la Renaissance. Donc c'est vraiment l'idée que l'individu se fond complètement dans la masse, que toutes les voix sont égales. Ça, c'est la méthode contrapuntique. Et puis en même temps, il superpose l'opéra qui est au contraire le contraire absolu, qui est que l'individu s'émancipe et on entend les vocalises qui rivalisent presque avec ce fond sonore. Donc c'est un chef-d'œuvre absolu et qui en même temps réunit deux époques. Donc c'était aussi tout à fait adapté au dénouement de l'intrigue de mon livre.
Et qu'est-ce que raconte justement peut-être la musique baroque sur le monde d'aujourd'hui, lorsqu'elle est écoutée aujourd'hui? Qu'en pensez-vous?
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une période un petit peu de glaciation avec le classique, le 19e, 20e, où la partition était devenue sacralisée, où on était dans une interprétation peut-être un peu, parfois un peu figée ou rigide. Et aujourd'hui, le baroque, il y a une explosion de vie, il y a une vitalité, il y a une ce qu'on retrouve aussi dans la musique du jazz, par exemple, ou dans des musiques contemporaines qui ont fait exploser totalement la partition. Par ailleurs, on est dans un monde baroque dans tous les sens du terme. On voit bien même dans le monde politique aussi, il y a des, au départ dans le monde de la géopolitique aussi, où on pensait qu'on était dans des codes inspirés du concert des nations, du droit international, et on voit aujourd'hui que les gens n'ont pas peur de parfois de briser les lignes, de franchir des interdits. Voilà. Et parfois ça se retourne aussi, parce qu'on est aussi dans une société par contre qui adore aussi ériger des normes et des interdits, donc c'est paradoxal. Voilà, on est dans un monde de liberté absolue où les gens se sont décomplexés, on va dire, et aussi dans un monde où on cherche désespérément parfois des nouvelles normes de comportement. Voilà. Donc c'est un choc des contraires qui est tout à fait intéressant, en tout cas quand on aime écrire des histoires.
Vous évoquiez le concert des nations, on va justement entendre un ensemble qui porte ce nom, celui de Jordi Savall. Vous avez choisi pour nous la Forlane du 4e concert royal de François Couperin. La Forlane, extrait du 4e concert royal de François Couperin, joué par le Concert des Nations, et Jordi Savall, votre choix, Eric Garondeau. Pour nous, une fois encore, on est entre la France, on est avec l'Italie aussi, puisque la Forlane est une vieille danse vénitienne. Chaque fois, ce miroir et ces différentes influences qu'on peut avoir dans l'histoire de la musique, qui sont passionnantes et qui nous permettent de relire, d'entendre aussi peut-être une œuvre d'une autre manière.
Oui, j'adore l'idée que les nations, notamment en Europe, à cette époque, le grand siècle, 17e, mais c'est vrai, en fait, de beaucoup d'époques, y compris jusqu'à nos jours, s'épient, se copient, s'inspirent mutuellement. Et c'est vrai que l'art n'est qu'une immense fabrique de copies en fait et d'inspirations multiples. Donc là, c'est effectivement une musique de Couperin qui s'inspire lui-même d'une danse vénitienne. C'est un petit clin d'œil ou un petit miroir avec mon roman Galerie des glaces qui raconte comment les miroitiers vénitiens ont été corrompus par Colbert et comment ils se sont retrouvés justement à la
cour. Au service de Louis XIV.
Voilà, au service de Louis XIV, qui a permis de construire la Galerie des glaces, qui a permis de fonder Saint-Gobain. Et puis c'est quand même une histoire d'espionnage industriel incroyable, puisque les Français ont envoyé une espèce de commando de force spéciale pour aller les chercher
pour
à Murano.
Pour aller les enlever.
Les corrompre. Moi, j'ai un petit peu romancé, donc il y a une famille qui se retrouve enlevée quasiment. Et puis ensuite, les espions vénitiens qui sont partis à leur recherche, évidemment, pour essayer de les ramener à la maison et éviter qu'ils trahissent ce secret de la fabrication du miroir parfait. Donc on peut dire les Vénitiens ont inventé le selfie en fait. Voilà, ce qui est évidemment aussi un élément très important de la culture contemporaine, puisque maintenant quand les gens vont voir la Joconde, ils vont surtout se prendre en selfie devant la Joconde,
devant le tableau.
Ce qui n'a aucun sens, mais c'est bien l'apothéose finalement de cet effet miroir. Et puis c'est un effet miroir aussi parce que cette Forlane de Couperin a ensuite été reprise, réinterprétée par Maurice Ravel. Et donc c'est intéressant aussi de voir que au début du XXe siècle, il y avait aussi un retour en arrière, une mise en miroir avec la période de baroque aussi, où les Français voulaient se détacher, comme Debussy, Ravel ou Fauré, se détacher de l'influence écrasante de Wagner et des grands Allemands. En plus, à un moment de l'histoire géopolitique qui était quand même, on était proche de la Première Guerre mondiale.
Très chahuté.
Très chahuté. Donc c'est intéressant de voir qu'on est revenu aussi aux sources de notre identité. Mais en fait, cette identité elle-même était inspirée aussi des échanges avec l'Italie. Donc on est vraiment dans l'identité européenne surtout.
C'est intéressant ce que vous dites par rapport au selfie. Je le rappelle, vous êtes directeur des affaires publiques chez TikTok France. Il y a quelques semaines, le pianiste Lang Lang, faut-il encore le présenter, proposait pour la première fois un concert de récital, tout simplement, sur TikTok. Où en est justement la musique classique de sa présence sur les réseaux sociaux d'aujourd'hui?
Oui, c'est amusant que vous citiez Lang Lang parce que je l'ai entendu jouer dans la Galerie des Glaces de Versailles.
Voilà.
C'est un moment rare. TikTok, c'est le miroir aussi de la société. Et donc, c'est logique que tous les talents s'expriment sur TikTok.
Et que nous raconte ce miroir de la musique classique aujourd'hui?
Je pense, en fait, j'aime pas trop d'ailleurs le terme musique classique, mais c'est vrai qu'on n'a pas trouvé d'autres
pour
termes.
Pour le moment.
Parce que classique, on a l'impression que c'est un peu figé dans une époque ou un style ou une esthétique, alors qu'il n'y a pas plus libre, justement, que la musique classique. On peut la réinventer. Les grands auteurs peuvent se jouer sur n'importe quel instrument. On a des très belles interprétations des grands de Bach, par exemple en Afrique, avec d'autres instruments. Ou évidemment, il a inspiré Thelonious Monk aussi en jazz, ou beaucoup de musique du monde. Donc, le classique devrait être enseigné partout, à tous âges et par tous les moyens. Et donc, TikTok, c'est un merveilleux moyen aussi d'apprendre. On peut apprendre la musique, on peut apprendre la peinture, on peut apprendre la gastronomie. On peut tout apprendre. C'est une encyclopédie en ligne.
France Musique, Saskia Deville. Thank you.
près d'une barque sur l'océan, extrait des miroirs de Maurice Ravel, joué ici par Vlado Perlmutter, votre choix Eric Garando, pour nous, quelle merveille. On s'en lasse jamais, hein, finalement, de cette musique de Ravel.
Oui, on peut l'écouter éternellement, c'est ça qui est incroyable, comme beaucoup de musique, comme la bossa nova, comme l'afrobeat aussi, que j'écoutais beaucoup en écrivant l'histoire, parce qu'il y a une partie de mon roman qui se passe au Nigeria. Donc la barque, c'est effectivement la barque des Vénitiens qui partent à Paris, c'est la barque sur les grands canaux de Versailles, et c'est aussi la barque sur les eaux de la lagune de Lagos, au Nigeria, où se passe une partie de l'histoire, et qui est pour moi un peu la Venise moderne. Ouais.
Et puis on imagine bien les reflets des rayons du soleil ici sur l'eau.
Voilà, ça peut être la mer de paille aussi, au sortir de Lisbonne. Ça peut être beaucoup de choses.
Beaucoup d'images défilent effectivement. Œuvre de style impressionniste, hein, composée au tout début du XXe siècle. Et l'intention de Ravel était de montrer les images, les ambiances de cinq personnages différents se regardant chacun dans un miroir. Ici dans cette œuvre, elle existe ici dans cette version pour piano. Mmh. Elle existe aussi dans une version pour orchestre, orchestré par Ravel lui-même. Je crois que vous aviez beaucoup de mal aussi à vous décider au moment de la programmation de laquelle choisir.
Oui, parce que c'est la musique de Ravel, comme la musique de Bach et bien d'autres, elle peut se jouer sur n'importe quel instrument en fait. Enfin, et puis par ailleurs, c'est un génie de l'orchestration, Ravel. Donc c'est vrai que la version pour orchestre aussi est très belle, comme aussi des versions de Forêt, des balades de Forêt pour piano et orchestre aussi. Forêt aussi un grand génie musical que je trouve pas suffisamment joué, notamment son répertoire pour piano, ses préludes, ses nocturnes, qui pour moi sont aussi beaux que ceux de Chopin.
Je suis assez d'accord avec vous. On va se rattraper dans cette émission. Alors pas tout de suite, on va se rattraper d'une autre manière, à la fois dans le sens où on va écouter Ravel jouer à l'orchestre avec cet extrait de Daphnis et Chloé, Levée du jour par les dissonances et David Grimal. Et puis je promets à nos auditrices, nos auditeurs, et je vous promets à vous Eric Garando, que je programmerai du Gabriel Fauré au piano très prochainement dans cette émission. Merci beaucoup d'être venu partager votre programmation musicale avec nous dans cette émission. Et puis je rappelle la sortie de votre roman Galerie des glaces chez Albin Michel, voilà, à s'échanger, à s'offrir pour les fêtes. Merci aussi évidemment à toute l'équipe, Eric Lancien, Pauline Boisaubert et Dofar Guéride. Un dernier petit mot peut-être sur ce lever du jour, Eric Garando, qu'on va entendre?
Oui, pour dire que c'est une aventure incroyable d'écouter ce lever du jour joué par les Dissonances, qui est un orchestre qu'on a créé avec David Grimal il y a bien bien longtemps, et qui cherche maintenant de nouveaux horizons, et qui a pu conquérir des publics en France, mais aussi dans le monde entier. Et puis j'ai de l'entendre aussi dans la Philharmonie de Paris, qui était un des grands projets que j'avais porté auprès de Nicolas Sarkozy il y a quelques années. Donc pour moi c'était un peu un double miracle, puisque Laurent Bell racontait récemment que cette Philharmonie aurait pu ne pas voir le jour. Et donc d'entendre Levée du jour par les Dissonances, qui vous savez c'est quasiment le seul orchestre qui peut jouer ce grand répertoire sans chef, avec une méthode très particulière, dans cette belle Philharmonie de Paris, c'est vrai que il n'y a pas de plus beau lever du jour.
Merci Eric Garando.
Merci de votre invitation.
À réécouter sur francemusique.fr.